Chapitre 8e. La porte fermait mal. D'un coup d'épaule, on eût pu l'enfoncer. Cela m'était désagréable. Je voyais déjà la police faisant irruption dans cette chambre. Mais à la réflexion, il m'a paru que cette fragilité de la porte n'avait aucune importance. Si la police venait jusqu'ici, que la porte fût solide ou non, j'étais pris. Je n'en passais pas moins plus d'une heure à la consolider. À la fin, j'y renonçais. À part cette porte, j'étais très bien. C'était une chambre de bonne. Il y en avait une dizaine le long du couloir. Elle avait un vasistas en guise de fenêtre. En ne sortant plus, je pouvais considérer que j'étais sauvé. Il y avait une semaine que je n'étais pas descendu. J'avais l'illusion de me trouver dans cette situation que j'avais connue au régiment, d'homme oublié dans un poste, tout en étant parfaitement en règle. Il continue à toucher sa nourriture, sa solde, il est porté sur les effectifs, mais personne ne sait où il est. Un matin, en me réveillant, je me décidai à sortir, mais la pluie crépitait sur la vitre du vasistas. Impossible de sortir sans but précis. Je regardai mes vêtements, mes objets familiers, et durant un instant, je les vis comme s'ils n'appartenaient plus à personne, leur possesseur ayant disparu ou étant mort. Dès que Germaine fut descendue, je m'habillai, fis le lit, mis de l'ordre. Soudain j'entendis un bruit de pas, je sursautai. On eût dit qu'à l'origine de mes malheurs il y avait eu un bruit semblable. Ce qui me semble devoir être la perte de bien des coupables, c'est cette hésitation à fuir qui s'empara de moi à cet instant. J'attendais, les yeux levés vers la tabatière, mais je ne l'ouvris pas, ni ne déplaçai le tabouret qui m'eût permis de me hisser sur le toit. Enfin, le bruit s'éloigna. Je pensais à me recoucher, mais je me dis que si l'on revenait, je n'aurais pas le temps de me rhabiller. Je restai assis, n'osant marcher de peur de faire du bruit, n'osant ôter mes souliers à cause des flaques d'eau. Germaine m'avait dit qu'elle reviendrait vers midi m'apporter le déjeuner. Or, aussitôt qu'elle était partie, je m'étais aperçu que j'avais oublié de convenir avec elle d'une façon particulière de frapper. J'avais beau savoir qu'elle reviendrait, la perspective que tout à l'heure elle allait frapper à la porte me causait d'avance une grande angoisse. Je savais qu'au premier coup, mon sang se glacerait. Bien que je n'eusse ouvert à aucun moment la tabatière, la mansarde s'était aérée toute seule. J'entendais le bruit que faisait la pluie. Pour tuer le temps, j'avais débarrassé les étagères et je lisais les vieux journaux d'avant-guerre qui les recouvraient. De temps en temps, je jetais un regard sur le téléphone intérieur. Je tremblais qu'il ne sonnât en l'absence de Germaine. N'allait-on pas venir si personne ne répondait? Un peu avant midi, je me levais. J'avais déjà fumé un paquet de gauloises de 80 francs. L'instant que je redoutais tellement approchait. J'étais si las de ma claustration que je tombais dans un profond abattement. Que faire? Comment me tirer de cette affreuse situation? Je me vis dans cette pièce, sans possibilité d'être ailleurs, de travailler, d'être utile. Il me semblait que je ne pouvais être plus malheureux, et pourtant c'était justement ce que j'avais le plus désiré, de vivre ainsi, ignoré de tous. Soudain, ce que je redoutais tellement se produisit. On frappa à la porte. Je me dressai d'un bond. Je fis instinctivement quelques pas en arrière. J'allais demander qui était là lorsque je me rendis compte à temps que j'allais trahir ainsi ma présence. Sans faire de bruit, je me jetai de côté de façon que l'on ne pût me voir par le trou de la serrure. Germaine frappa de nouveau en m'appelant. C'était fini, je n'avais plus peur. J'ouvris. Germaine m'apportait le déjeuner. Elle m'apportait aussi un autre paquet de cigarettes. Comme elle s'étonnait que je ne l'eusse pas ouvert plus tôt, je lui dis que je ne l'avais pas entendu. Elle ne prêta aucune attention à ce mensonge. Je refermai la porte tout de suite derrière elle. « Personne ne t'a vu ?» demandai-je. Elle ne comprit pas l'importance que j'attachais à sa réponse. Elle posa le plateau sur le lit en parlant à haute voix. Maintenant que nous étions tous les deux, en plein jour, dans cette chambre, j'étais pris d'une autre crainte. Celle de ne plus pouvoir me sauver, si c'était nécessaire, par dignité. Je ne connaissais tout de même pas assez Germaine pour dresser devant elle l'oreille au moindre bruit. pour l'empêcher de parler à haute voix, de se tenir au milieu de la pièce, de s'asseoir sur l'escabeau dont j'avais besoin pour ma fuite. Je ne voulais pas passer à ses yeux pour un poltron. J'étais si nerveux qu'elle me demanda ce que j'avais. « Rien, rien, » lui dis-je. Je n'avais qu'une idée, qu'elle me laissa seule à présent. Comme elle ne quittait pas la chaise, ce qui m'agaçait à un point inimaginable, je m'allongeai sur le lit et je la priai de s'asseoir à côté de moi. La vue de la chaise libre me calma. Je pris mon déjeuner à demi allongé, appuyé sur un coude. Quelquefois cela m'est arrivé dans la vie d'avoir cet air égoïste d'homme qui se fait servir par une femme, et j'en ai toujours été étonné tellement il était contraire à ma véritable nature. Chaque fois qu'elle me parlait avec tendresse, cela me faisait mal, car j'avais toujours présente à l'esprit la scène où, soudain, sans m'occuper d'elle, sans lui donner la plus petite explication, la bousculant même s'il le fallait, je serais amené à me sauver comme un fou. Peu après, quand elle voulut retourner à son travail, je la retins, en quelque sorte pour me punir. « Ne t'en va pas déjà, » lui dis-je. La chaise était toujours inoccupée et bien placée, c'est-à-dire juste sous le vasistas. On ne percevait aucun bruit. J'avais le sentiment que dans ce moment précis je ne risquais rien, que je pouvais me laisser aller à goûter l'existence. Les gens apportent tous de la menace avec eux, mais quand ils sont restés près de nous, quand nous ne sommes habitués à eux, cette menace s'évanouit et de la sympathie se dégage d'eux. Maintenant Germaine n'était plus un obstacle à ma fuite, au contraire. Je l'imaginais m'aidant en parlementant à travers la porte, en lançant mes poursuivants dans une autre direction, en disant avec un naturel parfait, lorsque finalement elle devrait ouvrir, « Qu'est-ce que vous voulez? Voyez bien qu'il n'y a personne. » Je passai encore une autre semaine sans sortir. J'étais de plus en plus agité. Tout à coup il m'apparut que les dangers qui me guettaient n'étaient pas ceux dont je me défendais, mais d'autres, beaucoup plus graves, que ma claustration m'empêchait de voir. J'avais le sentiment que si je restais une journée de plus dans cette chambre, j'allais être arrêté. Il fallait absolument que je sorte pour voir ce qui se passait dehors. Le jour, en tombant de la tabatière, donnait à la chambre quelque chose de solennel. On se serait cru dans un donjon, dans une crypte, dans un caveau. Il faisait froid et la lumière était grise. J'embrassai Germaine. Elle me plaisait à cette minute, avec son air de ne pas se considérer chez elle, son air de dire que la vie qu'elle menait était provisoire et que moi, je serais admis dans les autres qui viendraient. Ma nervosité s'était accrue au point que chaque fois que je prenais l'air, debout sur l'escabeau, la même cheminée immobile dans le lointain me paraissait être un homme, et j'avais beau le savoir, je ressentais toujours la même émotion. Je ne mangeais presque plus. J'étais devenu injuste. Quand Germaine rentrait, je ne lui adressais plus la parole, à moins que ce ne fût pour lui faire des reproches ou me plaindre de ce qui me manquait. Chaque matin, je lui demandais de m'apporter quelque chose. Quand elle n'avait pas trouvé ce que je désirais, je m'enfermais dans un silence profond. D'autres fois, je lui reprochais de ne pas venir me voir assez souvent dans la journée, de se désintéresser de moi. Un jour, ma conduite me fit peur. Germaine allait finalement se lasser de moi. Et que ferais-je? Dans la situation où je me trouvais, je ne pouvais pas me permettre de faire le difficile. Cela me parut si évident que, du jour au lendemain, je me transformais. J'eus l'occasion de constater alors combien on est fort, combien la vie nous est plus favorable, quand on sait se dominer. Quelques jours plus tard, en effet, au lieu d'être obligé de partir sans savoir où aller, ce qui était inévitable si j'avais continué à me montrer si dur, j'eus la joie d'entendre Germaine me dire que je ne pouvais plus vivre ainsi et qu'elle allait me conduire chez sa sœur. Je partis sans bagage pour ne pas éveiller l'attention. Germaine devait m'apporter ma valise quelques jours plus tard. Ici, il me faut signaler un détail curieux. Il n'était plus question d'amour entre nous. La gravité de ma situation avait en quelque sorte empêché nos relations d'amoureux de s'épanouir, et cela, sans que l'un ou l'autre nous eussions songé à nous reprocher quelque chose. Dès que je fus parti, je regrettais cet arrangement au sujet de ma valise. Si à la gare, par exemple, des gardes mobiles demandaient à Germaine où elle allait, si l'on fouillait cette valise, je sais bien qu'au commencement, elle eût parfaitement raconté l'histoire que nous avions préparée. Mais à la fin, ne se fût-elle pas troublée? Ce manque de confiance que j'avais en son énergie, je l'avais en celle de tout le monde. J'avais prévenu Germaine qu'on lui demanderait où elle habitait, à qui était la valise. Elle m'avait répondu qu'elle dirait qu'elle habitait chez sa mère. « Quelle rue ?» lui avais-je demandé. « Près de la gare. »« Et ton frère, où habite-t-il »« Il habite chez ma mère. »« Mais quel est le nom de la rue ?» Comme elle n'avait pas su répondre, je lui avais dit « Tu vois, tu vas te faire prendre. » Cette répétition ne m'avait pas rassuré. Le public ne comprend pas jusqu'à quel point cette racaille policière peut pousser un interrogatoire. Il s'imagine qu'il y a des bornes, qu'on ne peut dépasser une certaine limite. Il est incapable de préparer une série de réponses. C'est parfait dans la vie courante, mais se trouvant dans une situation comme celle que je redoutais, ces braves gens se troublent très vite. Et il apparaît qu'ils ne veulent pas trahir quelqu'un. Ils se butent. Ils ne parleront pas, du moins se l'imaginent-ils. Mais la police possède de tels moyens de pression qu'il vaut mieux ne pas en arriver là. Mon séjour dans la petite ferme du beau-frère de Germaine ne fut pas gai. Je m'ennuyais à mourir. Chaque fois que je rencontrais les gendarmes, j'avais des battements de cœur. Je me disais que c'était ridicule. À Paris, quand on voit un sergent de ville, cela ne nous fait aucune impression. Mais les gendarmes avaient à mon égard l'attitude qu'ont des élèves avec un nouveau. Tout le monde, d'ailleurs, dans quelque groupe que ce soit, a cette attitude, me disais-je pour me rassurer. Je ne manquais jamais de les saluer, et quand ils ne me répondaient pas, ou que je croyais discerner de la froideur dans leur salut, ou qu'ils ne portaient pas le doigt à leur képi, cela me plongeait dans la plus grande anxiété. Je me disais qu'ils croyaient que je cherchais à me mettre bien avec eux, justement parce que je n'avais pas la conscience tranquille. Quelquefois, le soir, il m'apparaissait que je devais m'en aller sur le champ, que le lendemain matin on allait venir me chercher. Je m'endormais finalement, et le matin, comme rien ne s'était passé, je pensais que j'avais été fou de me faire autant de soucis. Je me rassurais en me disant que si l'on avait dû m'arrêter, ce serait fait depuis longtemps. Au fond, le rôle des gendarmes était d'arrêter les vagabonds, les petits voleurs, et quand je les rencontrais, conduisant à la gendarmerie un pauvre ouvrier agricole qui avait volé 20 francs, aussi pénible que ce soit de l'avouer, je dois dire que j'éprouvais une sensation de soulagement. La nuit, quand j'avais une insomnie, j'étais pris de terreur. Il m'apparaissait qu'un crime, un événement important, venait de se produire dans le village et que ma situation irrégulière me désignait à la police. J'en venais à m'imaginer que pour me justifier, il ne me restait qu'à dire la vérité, et je n'échappais à l'accusation qui pesait sur moi que pour être jugé par les Allemands. Quand je m'éveillais, je regardais avant tout le temps qu'il faisait. Je regardais aussi dans la cour les feuilles pendues à des fils invisibles qui se déplaçaient insensiblement. Quand il pleuvait, j'étais plongé dans une tristesse profonde. Je n'avais pas de vêtements pour me protéger. Je ne pouvais pas sortir. Il fallait que je reste dans cette pièce nue où il n'y avait qu'un sommier humide et qu'un vase de nuit que je ne savais où cacher. Je m'étais mis dans la tête qu'il fallait que je fusse toujours en train de travailler à cause des laboureurs du voisinage, le travail étant une présomption d'honorabilité. Je dois dire que j'étais tellement abruti que je ne pouvais pas rester un instant sans rien faire. Dès que j'étais debout, je pliais mes deux couvertures aussi raides et aussi lourdes que de l'étoffe mouillée et gelée. Je balayais partout avec une branche de genêt, mais le ménage, quelque soigneusement que je le fisse, ne me prenait jamais plus qu'un quart d'heure. Il fallait alors que je trouve autre chose. Je sciais du bois. Je sortais des portes de leurs gonds pour les graisser, des portes auxquelles personne n'avait touché depuis que la maison avait été construite. Je réparais tout le temps quelque chose. J'avais un chiffon dans ma poche dont je me servais non seulement pour la poussière, mais pour sécher l'humidité. J'étais devenu maniaque de l'ordre et de la propreté. Je cherchais tout ce que je pouvais perfectionner. Je fabriquais des loquets, je posais des grillages, je réparais de vieux outils. Je passais 3 jours à essayer de rendre utilisable une vieille meule dont il manquait plusieurs pièces. Je nourrissais les poules. J'entrepris même de nettoyer les abords de la ferme. Il y avait partout des ordures, des débris, des pierres accumulées depuis des années. Je résolus de tout réunir en un seul endroit. Mais un matin, tout à coup, je fus pris de dégoût pour cette lamentable vie. Je n'avais plus le courage de la continuer. Je me dis qu'à ce prix-là, ma sécurité était trop chère. 2 heures s'étaient à peine écoulées que je me surpris en train de chercher la brouette. C'était plus fort que moi. Je ne pouvais rester sans rien faire. Je songeais alors que si je trouvais à me distraire au village, je pourrais, tout en restant ici, me sortir des habitudes ridicules que j'avais prises. Mais rien n'est plus difficile que d'engager une petite liaison agréable dans un village. Jamais je n'avais pu donner à la campagne un rendez-vous à une femme. On eût dit que l'amour n'existait pas, sauf peut-être le dimanche. Mais alors tous les hommes étaient là. Je réussis cependant à la longue à faire comprendre à une servante du café que je lui faisais la cour. Finalement, nous devînmes très bien ensemble. Ma vie était transformée. Mais il ne fallait pas que je perdisse de vue que je n'étais pas dans la situation de tout le monde. Je ne pouvais pas me permettre les mouvements brusques de l'amour. Je me trouvais dans cette situation pénible pour un amoureux de ne pas pouvoir être jaloux. Un jour, je ne pus cependant m'empêcher de faire une scène violente à cette jeune femme. Tout de suite après, je fus pris d'une grande frayeur, comme si je m'étais fait un ennemi, comme si en amour les injures et les cris avaient la même répercussion que dans la vie normale. Je retournai immédiatement demander pardon. Une si rapide volte-face étonna la servante, et je sentis qu'elle se disait au fond d'elle-même qu'il fallait que je fusse rudement amoureux pour revenir si vite.